A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Discret, c'est comme ça qu'il est désormais dans les médias, terriblement jaloux de sa liberté de retraité. Rarissime ça chez un homme politique. Alors je vous mets quelques indices dans la poche. Socialiste, proche de Lionel Jospin, européen convaincu, militant des droits de l'homme, vigilant sur toutes les questions liées à l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, le sexisme. Il reste dans l'imaginaire des Français le maire de Paris qui aura bénéficié d'une assez belle cote d'amour. Élu, plébiscité, poignardé, regretté, lui qui ne veut plus jouer aucun rôle dans la politique française a accepté de venir évoquer sa ville natale, Bizerte, là où enfance et adolescence tunisienne ont forgé en partie ses convictions d'homme politique français. Et c'est d'ailleurs assez joli de remarquer qu'il n'est pas le seul à être né ailleurs dans la classe politique. Qui d'autre ? Édouard Balladur en Turquie, Jean-Luc Mélenchon au Maroc, Philippe Seguin en Tunisie, Ségolène Royal au Sénégal, Dominique de Villepin au Maroc, Manuel Valls en Espagne, etc. Être né ailleurs pour un homme politique français, ça c'est un beau programme en sol majeur. Bonjour Bertrand Delanoë.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais surtout militant antiraciste, parce que le mot... Vous avez parlé de l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça. C'est juste, tout ce que vous avez dit est très juste. C'est tout le racisme que je trouve complètement inhumain.
Est-ce que ça vous arrive de discuter de ça entre hommes politiques français, de ce point commun d'être né ailleurs ?
Oui, ça peut arriver. Puis ceux qui ne sont pas nés ailleurs aussi, ça les intéresse beaucoup. Je me souviens que quand je suis allé récemment en Tunisie avec Emmanuel Macron pour sa visite d'État, ça l'intéressait beaucoup avant que je lui parle de la Tunisie telle que je la voyais. Donc, si vous voulez, c'est un peu ma marque de fabrique. Je suis tunisien, j'aime la Tunisie. Et donc souvent, les autres responsables politiques ont eu envie de m'interroger sur ce lien et sur ce que je comprends de la situation du peuple tunisien aujourd'hui.
Alors, en sol majeur, on va mettre une première note de musique dans ce programme, avec une petite merveille de Gabriel Fauré. À quoi est associé dans votre souvenir ce cantique de Jean Racine qu'on va écouter ?
D'abord, enfant, j'ai eu l'immense privilège de faire partie des petits chanteurs de la Croix de Bois. Parce que Mgr Maillet, le fondateur, avait créé deux filiales, si j'ose dire, une au Québec, la Manécanterie des Neiges, et une en Tunisie, la Manécanterie des Sables. Et tout gosse, j'ai été petit chanteur à Croix de Bois, donc j'ai été initié au beau par la musique classique. Quand j'étais enfant, je ne connaissais pas le Requiem de Gabriel Fauré, hein, mais... Parmi les œuvres qui me touchent, qui m'émeuvent vraiment parce que je les admire pour leur beauté, il y a ce fameux cantique de Jean Racine.
Pécom. Pays secret, pays d'enfance.
Bertrand Delanoë, imaginons, nous sommes encore un peu dans les années 50, à Bizerte, au nord de la Tunisie. À quoi ressemble rapidement la maison de votre enfance ?
C'est pas une maison, c'est un appartement. Nous avons toujours été des urbains. Et donc c'est un appartement plein centre-ville, dans un immeuble moderne. D'ailleurs je crois qu'on a été dans cet appartement les premiers occupants. C'est le plein centre, c'est la vie, il y a des jardins, il y a des fleurs, il y a des odeurs. On va à l'école à pied. D'ailleurs, comment dire, il y a une continuité parfaite entre l'art de vivre de ma toute petite enfance, donc dans les années 50, comme vous dites, et l'art de vivre d'aujourd'hui. C'est une autre ville, c'est la même, mais elle a changé, comme toutes les villes. Hein. Baudelaire disait « le cœur d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel ».
Alors, jusqu'en 56, la Tunisie est encore un protectorat français. Par quel détour de l'histoire vos parents ou peut-être grands-parents se retrouvent en Tunisie ?
Voilà, c'est très compliqué parce que j'ai une arrière-grand-mère italienne qui est née à Tunis. Son père était bijoutier dans la Médina. Et donc ça, c'est l'ascendance maternelle. Il y a les Delors, le nom de famille de ma mère. Ça, c'est des hauts fonctionnaires qui sont venus à la fin du 19e siècle. Il y a quand même, compris mon grand-père, qui est un haut fonctionnaire donc, de la Régence, comme on disait, était né lui-même en Tunisie, d'un haut fonctionnaire. Et puis du côté de mon père, c'est différent. Les Delanoë, ce sont des marins de la baie de Saint-Malo qui ont émigré à Saint-Pierre-et-Miquelon. On aime les voyages chez moi. Hein. Et mon grand-père, après un veuvage et un naufrage, est allé en Tunisie parce qu'il est devenu capitaine du port à Sfax, à Tunis, à La Goulette, à Bizerte, à Tabarka. Mm-hmm. Et donc, mais il a épousé une Italienne. Donc c'est quand même très mélangé. Et mon grand-père maternel, qui était fils donc d'une Italienne aussi, lui, il a épousé une Anglaise. Donc ils avaient le goût...
De l'ailleurs.
Ils avaient le goût de la diversité, je crois.
Alors il y a la question de l'espace qui se pose évidemment dans cette Tunisie, entre Européens et Arabes. Comment ça se vit pour vous ? Est-ce que vous vivez, est-ce que vous côtoyez les Arabes ou est-ce que c'est un peu chacun chez soi ?
C'est les deux à la fois. C'est un peu chacun chez soi. Nous, on vit vraiment comme des Français. On sait qu'on a des ascendances italiennes, anglaises, mais... Quand même, c'est très français chez moi, mais en même temps, dans notre vie quotidienne, il y avait tous les aspects du mode de vie tunisien. Une fois par semaine, on faisait venir du couscous. On aimait mon gâteau préféré d'enfance, ça s'appelle les oreilles de juge.
Je connais pas ça.
Ah, ça c'est très bon. Excellentissime. Il y avait des petits déjeuners où on était heureux les gosses parce qu'on avait le droit d'aller acheter des ftaïs. Vous savez, les beignets pleins d'huile là. Je me souviens quand j'étais ado, j'allais les jeudis après-midi, parce que le jour de congé c'était le jeudi, chez une de mes copines de classe tunisienne, complètement musulmane, père et mère, hein, et j'allais passer souvent le jeudi après-midi avec elle, chez elle. Alors, tout le monde s'étonnait et disait, mais comment les frères, tout, et ils m'ont dit, mais ils te regardent, bon, ils te surveillent quand même, t'inquiète pas. Donc, si vous voulez, à la maison... Il n'y avait pas de rejet. En plus, moi, j'ai connu, donc, tout petit, la Tunisie colonisée et, à 6 ans, la Tunisie accédant à l'indépendance. Et je me souviens, par exemple, des manifestations de joie. Il y a eu des grandes manifestations qui étaient quand même assez hostiles aux Français. Mais je pouvais me balader dans la rue sans que personne ne me dise sale français. Mmh. Je n'ai jamais senti peser sur moi la faute d'être français et d'appartenir au peuple qui a colonisé.
Oui, mais vous vous souvenez quand même, vous avez des images qui évoquent quand même des tensions et cette séparation entre Arabes et Européens. Vous avez des images de cette fameuse plage de Bizerte.
Alors ça, c'était avant l'indépendance. Mm-hmm. Donc tout petit, oui, je m'en souviens. Le sport nautique est un club privé. Jusqu'à l'indépendance, c'était interdit aux Arabes. Et il y avait des barbelés au bout de cet espace pour empêcher ceux de la plage populaire de venir. Mais on disait, la plage des Arabes. Mais après l'indépendance, donc j'avais 6 ans au moment de l'indépendance, ça s'est ouvert aux Arabes, c'était toujours une plage privée, mais où il y avait, des Arabes et des Français. Et donc, j'ai quand même passé la plus grande partie de mon enfance bizertine dans un pays décolonisé.
Alors, quelle éducation pour vous, Bertrand Delanoë, dans cette Tunisie? Là, il faut interroger vos yeux, qui parfois n'en croient peut-être pas leurs oreilles. Quelle musique, quel théâtre, allons voir.
Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc faire toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet d'infortune et des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes.
Un peu de Maria Cazares en Phèdre, ou bien un peu d'Oum Kalsoum dans cette enfance tunisienne. Ma question est celle-ci, Bertrand Delanoë, est-ce que vous êtes éduqué dans cette Tunisie comme un enfant de France ou comme un Français de Tunisie?
Comme un enfant de France, mais je crois que c'était le cas des Français de Tunisie. En tout cas, moi d'abord, j'ai été toujours en école privée catholique. Deuxièmement, ce à quoi on nous initiait, c'était la culture française. Phèdre, c'est mes bons souvenirs parce que on allait chaque année à Douga, qui est un très beau site romain où il y a un théâtre antique, et la Comédie française venait chaque année jouer à Douga. Et je me souviens que la pièce que j'avais le plus aimée, c'était Phèdre. Par ailleurs, si vous voulez, il y avait les Jeunesses musicales de France, il y avait le cinéma. Tout cela, quand il y a eu le premier électrophone Tepaz, vous savez, mon père en a acheté un et il nous a acheté des disques. Il y avait beaucoup d'opéras pour ma mère, de musique classique et puis quelques chansons. C'était, je me souviens, peut-être pour faire plaisir à ma sœur, s'il y avait Marie-Josée Neuville. Ça vous dit rien?
Rien du tout.
C'était le début des années 60, j'imagine.
Alors, Oum Kalsoum là-dedans.
Alors, justement, moi je ne savais rien. Oum Kalsoum, je ne savais même pas qu'elle existait. Im Khaldoun, je ne savais pas tout ça. Je connaissais peu finalement de la culture arabe, mais je savais tout déjà de mon amour de ce pays et de ce peuple. Quand j'étais un étudiant ou un jeune adulte à Paris, j'aimais, quand j'allais dans une librairie, repérer les titres arabes pour connaître la culture arabe. C'est comme ça que j'ai découvert Naguib Mahfouz, que j'ai découvert Amin Malouf. Et parce que c'était des noms arabes, j'avais envie de savoir qui c'était. Ce que je ne connaissais pas enfant. J'avais entendu évidemment de la musique. J'avais certainement entendu dans des cafés la voix d'Oum Kalsoum. Mais je ne savais pas qui était Oum Kalsoum. Tout ça, je suis allé le chercher moi-même parce que j'avais besoin, comment dire, de cette identité-là dont j'avais l'intuition que c'était la mienne.
Donc on ne peut pas vous présenter comme un fils de colon. Vos parents ne font pas partie
non,
de cette catégorie-là.
Non, ce sont des fonctionnaires. D'ailleurs, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de propriété. Qui n'étaient pas pauvres, mais qui étaient voilà, des petits blancs, peut-être.
Qui ne vantaient pas ce qu'on appelle les bienfaits de la colonisation.
Ah, ça c'est plus nuancé, parce que les fonctionnaires de la Régence, ils étaient très proches de toutes les familles bellicales. Je sais que mon grand-père était très proche de beaucoup de ministres arabes, tunisiens, mais de la Régence. Donc, ce qui orientait, c'était quand même le colonisateur. Cela dit, le protectorat, c'est pas comme le département en Algérie.
On est d'accord.
Là, carrément, bon, le protectorat, il y avait une apparence de direction du pays par son souverain, d'abord, le Bey, et par le Premier ministre, qui était un arabe, et les ministres. Et mon grand-père était un de leurs collaborateurs. Mais je sentais que l'éducation, la formation, le niveau de connaissance était discriminant. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'accès à l'indépendance, j'ai pas senti mes parents paniquer ni affoler. D'ailleurs, mon père est devenu coopérant, c'est vous dire que ça l'affolait pas. Mais en même temps, je me souviens de réflexions de mes parents disant « Mais non, l'indépendance, c'est très bien, mais n'est-ce pas trop tôt? Ont-ils assez de cadres formés, etc. ?» C'était pas le colonisateur qui a envie de bouffer l'autre, mais c'est quand même le colonisateur un peu condescendant.
L'acuité du problème tunisien a conduit le président Mendès France, accompagné de M. Christian Fouché et du maréchal Juin, à faire à Tunis un voyage éclair.
Je suis venu aujourd'hui à Tunis pour proposer des solutions que je crois bonnes. Je suis venu pour convaincre les uns et les autres que les rancunes et la violence doivent et peuvent faire place à la confiance et à l'ordre pacifique. J'espère avoir été entendu. L'avenir de la Tunisie dira, je n'en veux pas douter, que sur cet antique pays, qui devient en union féconde avec la France un pays moderne, auront triomphé tout à la fois aujourd'hui la raison, le progrès et la paix.
En rentrant à Tunis, où l'attendait une foule dense et enthousiaste, M. Habib Bourguiba a donné sa caution personnelle aux accords conclus à Paris.
Nous avons examiné la situation tunisienne et je crois qu'elle sera couronnée de succès et que les aménagements seront apportés dans une atmosphère d'amitié et de compréhension aux clauses des conventions franco-tunisiennes dont l'insuffisance ou la timidité aura été démontrée.
Grande journée pour la Tunisie. Au Quai d'Orsay, M. Christian Pinault et M. Tahar Ben Ammar, chef du gouvernement tunisien, ont signé l'acte qui proclame l'indépendance de la Tunisie et abroge la convention du Bardo. De nouveaux entretiens définiront l'interdépendance franco-tunisienne.
Un bouquet de voix hein, pour vous Bertrand Delanoë, et notamment celle de Habib Bourguiba et Mendès France pour En sol majeur sur RFI. Avec cette question, donc l'indépendance dans la famille est accueillie apparemment assez tranquillement, mais je me demandais ce qui se passait dans votre tête d'enfant à ce moment-là. C'était qui votre président? Est-ce que c'était davantage Bourguiba ou René Coty, qui est président jusqu'en 59?
Je savais que René Coty était le président. Je savais que Mendès aussi, j'entendais parler, parce que les parents parlaient devant nous. Bon, moi, mon président, c'est Bourguiba à l'époque.
Ah oui, hein?
Ah oui, parce que d'abord, Bourguiba est vraiment le représentant du patriotisme tunisien. Je le sens d'entrée. Puis, dès l'indépendance, chaque fois qu'il y a des chefs d'État étrangers qui viennent le voir, il vient à Bizerte. Et il défile en voiture décapotable, oui. Il passe devant chez nous. Donc moi, chaque fois, je monte sur la terrasse pour le voir. Et donc, c'est Bourguiba. Non, c'est Bourguiba. Alors, il y a des... Je ne suis pas... Vous savez, j'ai 6 ans hein, au oui. moment de l'indépendance. Je ne sais pas tout. Le moment fondamental de la prise de conscience, il vient très tôt, parce que j'ai à peine 11 ans. C'est la guerre de Bizerte en 61. Voilà. Guerre inutile, boucherie.
Donc un bras de fer hein, quand même entre Bourguiba et le général de Gaulle qui ne veut pas lâcher Bizerte, cette base navale qui a été concédée à la France au moment de l'indépendance.
Bizerte est un lieu du point de vue militaire stratégique, c'est vraiment un point d'observation de la Méditerranée. Ça a toujours été convoité, c'était la France. Bon, mais à partir du moment où il y a l'indépendance... C'est voilà. normal que la Tunisie veuille la base. Et tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, cette base serait rétrocédée aux Tunisiens. Simplement, il y a eu un double moment. C'est qu'en 61, le général de Gaulle, à la guerre d'Algérie, et il s'apprête à lâcher l'indépendance. Donc il faut qu'il donne des gages un peu au réac, si j'ose dire. Et Bourguiba est contesté dans le mouvement des non-alignés parce qu'on ne le trouve pas assez dur avec le colonisateur. Et donc... Il veut montrer aussi qu'il est capable de se battre avec son armée contre l'armée française. Bon, tout ça vire à la boucherie, et un an et demi après, la base est évacuée, évidemment. Donc moi, je leur en veux beaucoup, j'admire beaucoup et De Gaulle et Bourguiba.
Mais qu'est-ce que vous voyez,
mais je leur en veux beaucoup.
Du haut de vos 11 ans.
Du haut de mes 11 ans, d'abord, on arrive à tout regarder. Ma mère nous autorise à regarder, et ce sont des combats de rue, et je vois tomber des jeunes de 17, 18 ans, comme des mouches. Et là, j'ai une prise de conscience, un choc, une colère, une tristesse, parce que j'aime la France, j'aime l'armée française, j'aime le drapeau français, j'aime la Marseillaise, et j'aime la Tunisie, et j'ai pas envie qu'on fauche la jeunesse tunisienne dans un truc qui me paraît déjà absurde.
Donc bon. Vous êtes pris entre deux feux, hein, Bertrand Delanoë, et entre cet amour pour la France et pour cette terre arabe.
Oui, je leur en ai voulu parce que je ne voulais pas qu'on m'interdise d'aimer la France et d'aimer la Tunisie. Mmh. Et je trouvais normal, déjà à 11 ans, que les Tunisiens soient les patrons chez eux.
Vous vous souvenez de votre départ de Bizerte et de cette Tunisie en 63 ?
64.
64.
64, je m'en souviens. Nous, les gamins, on est très contents parce qu'on part en France, on va découvrir la neige, le ski et tout. Mais je me souviens de ma mère. Ma mère est née en Tunisie. Par sa grand-mère, donc, elle était la troisième génération. Nous sommes la quatrième née en Tunisie. Ma mère vraiment a aimé profondément la Tunisie. Elle a 50 ans à ce moment-là, je pense, 51 peut-être. Et je sens, quand les sirènes du bateau résonnent, je sens ma mère qui se casse en deux. Et à ce moment-là, moi qui suis content de partir en France, qui ne sais pas encore que je vais regretter la Tunisie, mais qui adore la Tunisie, je me dis, il y a quelque chose de violent dans l'histoire. Mmh. Et après, j'y réfléchis. Et étant profondément un décolonisateur, adorant la Tunisie telle qu'elle est aujourd'hui, je veux dire indépendante, après il y a des choses évidemment qui se débattent, je me dis quand même, ce genre de non-Tunisiens, comme ma mère, étaient vraiment des Tunisiens.
1963-1964, la France métropolitaine, comme on disait à l'époque, vous attend, Bertrand Delanoë. Et c'est une France encore endolorie par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. En témoignent ceux qui racontent, par exemple, la résistance.
Là-bas, à Aigueperse, vite après notre arrivée, j'avais un camarade qui travaillait au bureau au PC, au porte-commandement. Et alors, un matin, il était venu me voir. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ben, je lui dis, annonce-le-moi quand même, quelle qu'elle soit. Il me dit, tu es sur la liste de départ pour les STO en Allemagne. Je l'avais embrassé et remercié. J'ai déserté et je suis rentré dans la clandestinité, évidemment, pendant longtemps. Et après, je suis rentré dans la résistance comme agent de liaison au réseau Libération Nord. Je faisais le facteur, en somme, entre les différents chefs de réseau, ce qui n'était pas rien d'ailleurs à l'époque, parce que j'ai failli tomber plusieurs fois dans les mains de la Gestapo.
Bécom.
J'ai descendu un sous-officier allemand.
Bleu.
J'ai été plus pressé que lui, fort heureusement.
Blanc.
Parce que sinon, c'était moi qui passais à la casserole.
Rouge.
Ça n'a pas été tout rose, hein.
Alors, quand vous rejoignez la terre du drapeau français, Bertrand Delanoë, vous avez 14 ans, vous arrivez à Rodez, dans le sud-ouest de la France, où tout évidemment est très différent, un peu douloureux aussi, mais où vous découvrez un mot, c'est le mot héroïsme. L'héroïsme notamment d'anciens combattants ou d'anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, tout ça, ça nous était un peu passé au-dessus. Puis moi, de toute façon, je suis né après la guerre, hein. Mais c'était pas tellement dans les récits de mes parents. Je sais que mon père était patriote, il était assez à droite, mais comme il était patriote, il était gaulliste, et que sa mère, qui était italienne, elle était un peu moins, hein. Bon, mais on n'avait pas entendu parler. Il y avait eu un peu les Allemands, un peu les Américains, ça avait été assez rapide. En revanche, dans l'Aveyron, c'est une terre qui est complètement marquée par cette Seconde Guerre mondiale, avec les collabos et les résistants. Il y a notamment à Saint-Radegonde un monument à des jeunes résistants qui ont été fusillés. Et tout de suite, alors j'apprends, et là aussi se forge une conscience politique, et je deviens aussi amoureux d'une histoire.
Voilà, un intérêt pour l'histoire et un goût aussi pour la chose politique naît dans votre tête, avec de grandes interrogations sur la marche du monde. Et petit à petit, des hommes de gauche, pas toujours en vue d'ailleurs, comme le président de la Ligue des droits de l'homme, Daniel Meyer, que vous aimez, rejoignent votre panthéon intime. Mais il y a une autre figure qui, lui aussi, a eu à vivre une page de notre histoire coloniale, qui va compter pour vous, c'est François Mitterrand, ministre de l'Intérieur du gouvernement Pierre Mendès-France, à un moment donné, qui se rend en Algérie. Au moment des événements de la Toussaint, on est en 1954.
Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage de la situation présente. Sans le concours des populations, rien n'est tout à fait possible, sans aucun doute. Mais les premières victimes, si elles n'agissent pas dans ce sens, ce sera elles. Et comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquons pas une occasion de le faire. Nous ne frapperons donc pas d'une manière collective. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtirons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige de la rigueur, les responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes, contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense, dans leur vie, dans leur bien, et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée.
Celui qui s'exprime donc sur la question sécuritaire dans l'Algérie encore française, François Mitterrand, dans l'ensol majeur de Bertrand Delanoë. Alors vous, Bertrand, vous entrez au PS en 72 en y découvrant la stature d'un Mitterrand qui donc 20 ans plus tôt n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie. C'est bien sûr tout un contexte, hein, toute une époque. Mais comment votre sensibilité d'homme venu d'ailleurs... Vous avez eu cette phrase d'ailleurs, le fait colonial m'a construit politiquement. Donc comment cette sensibilité a négocié avec le passé colonial de cet homme que vous admirez tant?
Mais parce que, si vous voulez, en 1972, d'abord une partie des engagements sur l'Algérie de François Mitterrand et de Pierre Mendès France, car ils se sont trompés tous les deux. Bon. On n'en parle pas, c'est pas dans l'actualité. Et le choix... du Parti Socialiste et de François Mitterrand, c'est un choix pour la France. C'est donc, si vous voulez, un aspect, parce qu'il y aura pire après, hein, quand même, il y aura la révélation du passé vichiste de François Mitterrand, mais comme je dis toujours à ceux qui font la leçon, avant qu'il devienne un résistant, qui risque sa peau quand même. Hein. Donc, on se trompe, mais quand on se rachète, entre guillemets, en étant courageux au point de risquer la mort, c'est pas des gamins qui ont jamais eu aucune, comment dirait, preuve dans la vie, qui doivent trop faire la leçon. Mais sur l'Algérie, ils se sont trompés. Mais c'est pas quelque chose qui est dans le débat. On en parlera beaucoup plus tard.
L'omerta.
La question de la colonisation viendra après, mais vous savez, des gens... un peu plus âgés que moi, comme Pierre Jox, Lionel Jospin, qui est alors rocard, très très engagé pour l'Algérie algérienne. Bah, ils ont soutenu François Mitterrand. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, tout le monde se trompe à un moment donné. D'autant que moi, après, j'ai bien connu Gaston Defferre. Gaston, il avait été bon dans la décolonisation de l'Afrique. Et Mitterrand avait plutôt été, de ce point de vue-là, lucide. C'est sur l'Algérie qu'ils se sont plantés. Oui. Sur l'Algérie... je pense que la faute, si on essaye de... c'est que c'est un département. Et comme c'est un département, ils ont cru vraiment que c'était la France. Mais non, ça pouvait pas être la France.
Vous êtes d'accord aujourd'hui, Bertrand Delanoë, avec Emmanuel Macron, lorsqu'il dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité ?
Oui, oui, d'ailleurs, quand il l'a dit, il a été très critiqué. Et vous savez qu'il y a un excellent historien qui lui a donné raison sur le plan de la vérité historique, c'est Benjamin Stora. Et Benjamin Stora, c'est quand même quelqu'un d'assez crédible. Oui, alors, ça a choqué. Puis moi, si vous voulez... vous savez, moi, j'ai choqué. J'ai eu beaucoup de lettres après mon livre « La vie passionnément » de Français de Tunisie me reprochant de dire qu'il y avait donc ces fameux barbelés sur la plage qui nous séparaient de la plage des Arabes. Ils ont dit « Faut pas dire ça, vous devez pas... » J'ai dit « Si, c'était la vérité. » Bon... voilà, en même temps, il faut essayer de rassembler. Je veux dire, quand je vous ai parlé de la douleur de ma mère à 50 ans, brisée, c'est pas parce qu'elle était colonisatrice, c'est parce qu'elle était passionnément amoureuse de la Tunisie, voilà.
On va mettre un petit peu de loukoum dans cette conversation.
Oui,
avec l'hymne des exilés d'un certain Dahman El-Harachi, repris par Rachida. Pourquoi vous faites Hosanna? Pourquoi Yaraya?
Parce que moi d'abord, si vous voulez, mes 32 ou 33 dernières années où je passe beaucoup de temps en Tunisie, je me suis réapproprié la culture populaire. Je vis avec mes amis tunisiens. C'est une chanson populaire et Rachida, que j'aime beaucoup en plus, qui est un mec bien, en a fait quelque chose de moderne et tout le monde, quelles que soient les générations, se reconnaît dans l'interprétation de Rachida. c'est à eux, j'ai failli dire c'est à nous.
Mm-hmm, c'est joli. Occidentalisé hein, de Rachita sur RFI pour faire danser les yeux de Bertrand Delanoë qui danse pas du tout en fait. Hein. Homme politique français, ancien maire de Paris qui a une autre ville tunisienne dans son cœur, Bizerte. Sol majeur plongé passionnément dans une vie, celle de Bertrand, et dans un destin, celui de Delanoë. Le grain de l'histoire démarre en Tunisie, sous protectorat français, et sur une plage de Bizerte, cette pointe du nord de l'Afrique, qui regarde l'Europe. Le petit Bertrand rêve des grands boulevards et de Montmartre, mais il parfume aussi ses nuits de jasmin, et il sent dans l'air une perfection de vie méditerranéenne. Jusqu'à ces barbelés de la plage de Bizerte, censés séparer les Arabes des Européens. Un arrêt sur image qui décide du destin de Delanoë, désormais entièrement dévoué au bien public, à l'égalité entre citoyens, à la diversité du genre humain. Pourquoi Bertrand Delanoë en sol majeur? Eh bien parce que cet homme politique français, membre du Parti Socialiste, député, sénateur, maire de Paris de 2001 à 2014, né dans une famille un peu France traditionnelle, s'est un jour retourné sur sa ville natale. Et vous avez décidé de faire, c'est vous qui avez employé ce terme, votre alia à Bizerte. Pourquoi et comment cette idée est née?
D'abord, j'ai découvert ce qu'était l'alia quand j'étais un adulte en France, à Paris même précisément, et des amis juifs m'ont dit, ben voilà, faire son alia, c'est retourner sur la terre d'origine. Et moi, j'ai eu l'impression que j'étais totalement incomplet si je faisais pas ce retour, mais pas ce retour à la Tunisie par quelques séjours dans un hôtel. Ce retour réel. Et c'est pourquoi, depuis 32 ans, j'ai voulu avoir mon pied-à-terre à Bizerte. Fallait que j'y aie mes objets familiers, mes disques, mes bouquins, et que j'y retrouve d'abord des amis d'enfance, des gens qui ont connu mes parents, et que je me sente totalement à l'aise avec ceux qui vivent la Tunisie aujourd'hui. Un jour, je leur ai dit, mais je suis qui, moi? Est-ce que je suis un Français de Tunisie? Ils m'ont dit non. Est-ce que je suis un Tunisien? Pas tout à fait. Si, Tunisien, je suis, mais vous allez voir. Est-ce que je suis un immigré? Après tout, il y a des Tunisiens immigrés qui vont en Europe et qui reviennent l'été. Ils m'ont dit non. Je dis, mais qu'est-ce que je suis? Ils m'ont dit, mais tu l'as dit un jour toi-même. Quand tu étais en visite officielle en Tunisie, tu as dit, je suis le fils de la Tunisie. Et ben voilà, je suis le fils de la Tunisie.
Qui rentre au bercail. Vous avez la nationalité tunisienne?
Non. Je suis tunisien, je suis parisien, vous savez.
Pourquoi vous ne l'avez pas, cette nationalité?
On l'a proposé. D'abord, je me dis, je ne vais quand même pas me taper les relations avec deux administrations.
Ça, c'est pas un tellement, argument.
Ensuite, si vous voulez, bon, ça me va bien parce que Comment, vous savez qu'il va y avoir des municipales bientôt en Tunisie. Il y a plein de Tunisiens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent tu veux pas te présenter à la mairie de Bizerte. Je dis ah non,
ben
surtout
oui.
pas.
C'est la question. Qu'est-ce que vous feriez vous
moi,
en tant que maire de Bizerte?
Oui, oui, justement. Je voudrais, si vous voulez, à Bizerte, j'aime bien me fondre dans le paysage. J'aime bien être, je sais pas comment
un
vous dire,
anonyme.
Aller au marché tranquille, aller le fait d'être un au milieu de beaucoup d'autres. Je l'apprécie beaucoup à Paris, depuis que je suis plus maire, et je l'apprécie particulièrement à Bizerte, où, voilà, donc, la nationalité, pourquoi pas, je l'apprendrai peut-être un jour. Pour moi, c'est pas un sujet, parce que, pour les Tunisiens, ce n'est pas un sujet. Je suis Tunisien, et je suis Bizertin.
Tekelem El Arabiya ?
Chouaïa, chouaïa. Mouchbar, ça n'est pas bien, surtout. Mais vous savez quoi? Moi, comme je mélange les mots d'arabe et de français, ouais. ils me disent, mais tu parles très bien l'arabe. Je dis, mais non, parce que moi, quand je mets des mots de français à la place des mots d'arabe, c'est parce que je ne connais pas le mot en arabe. Mais, ouais. Donc, je me débrouille un peu.
Alors, vous allez me pardonner cette impression, Bertrand Delanoë, mais les hommes de gauche et la culture, ce n'est plus vraiment ce que c'était. Alors, on a fait notre petit marché ensemble pour voir ce qu'il y avait dans votre couffin culturel à vous, côté méditerranéen, ça donne un peu ça.
زي كده نعم تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموسيقى مين
الفتى شي ما يتعدى صاحي
وين كنت البارح الجروب هذا وفين
ماما عندنا كونسير اللي انسى وفيش
هذا الكوب يتفرج لازم ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها
paquet cadeau en sol majeur pour vous, Bertrand Delanoë, et donc avec des senteurs, on a bien dit méditerranéenne, et cette Dalida, je crois qu'il y a une grande histoire d'amour méditerranéenne d'ailleurs, entre vous et Dalida.
Exactement, c'est une très belle histoire d'affection, belle histoire d'amitié. C'est avec Dalida que j'ai connu Youssef Chahine. Et donc, si vous voulez, il y a toute une Méditerranée, on se mélange, on a un peu de tout, on vient de partout. Et en fait, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est que la Méditerranée ajoute les richesses culturelles et humaines. Et que quelqu'un qui a accès à tout cela, toutes ces personnes et à toutes ces cultures, est plus riche que quelqu'un qui est enfermé dans son monde.
Alors côté cinéma, j'ai cru comprendre que vous arriviez à faire des infidélités à François Ozon, que vous adorez, Bertrand Delanoë. Pour les nouveaux talents tunisiens, on a eu un petit extrait en sol majeur de l'excellent premier film de Leïla Bouzid, « À peine j'ouvre les yeux ». Est-ce que vous suivez ce qui se passe sur la scène culturelle tunisienne?
J'essaye. On a un ambassadeur de France qui me renseigne bien, Olivier Poirot d'Arvor, parce qu'il est à la fois un très bon ambassadeur, mais aussi très proche de la population tunisienne. Il aime la Tunisie. Il y est très attentif. Donc, et puis j'ai pas mal d'amis qui m'amènent dans des galeries. Je connais un jeune peintre tunisien qui me fait mourir de rire parce que il est de Djerba. Il est musulman et il s'appelle Bokobza. Et il me dit, tout le monde croit que je suis juif. Non, je suis musulman. Bon, il a beaucoup de talent. Et voilà, par exemple, je suis attentif, notamment à la jeunesse. Et ça peut être à la fois du cinéma, de la musique, mais aussi de la philosophie.
Que dire de l'évolution de cette société tunisienne depuis la Révolution? Lorsque vous prenez, vous Bertrand Delanoë, la décision de révéler publiquement votre homosexualité en France en 1998, quelles sont les réactions du côté tunisien?
Ah ben, elles sont meilleures qu'en France. Hein. Moi, je redoutais beaucoup les réactions en Tunisie. Alors, cela dit, la situation n'est pas satisfaisante actuellement, parce que vous avez l'article 230 du code pénal, ou je sais pas quoi, qui réprime l'homosexualité. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire au président Essebsi, que j'aime bien, et qui est par certains côtés très modernisateur, parce qu'il faut quand même oser, dans un pays musulman, pour la première fois dans l'histoire, dire qu'une femme musulmane peut épouser un non-musulman sans qu'il se convertisse. Et sur l'héritage, c'est tellement formidable que le reste va venir, mais qu'il ne faut pas être complaisant vis-à-vis d'une répression qui parfois existe vis-à-vis des homosexuels. En tout cas, il y a des associations homosexuelles, notamment Shams, qui se battent, qui sont courageuses. Ce que je crois comprendre de la société tunisienne, c'est que c'est plus le fait de brutaliser, de choquer qui dérange. Parce qu'en fait, les Tunisiens, dans leur immense majorité, sont respectueux de la liberté individuelle.
Vous bénissez, je le sais, deux, trois grandes rencontres dans votre vie, Bertrand Delanoë. On n'aura pas le temps de partager quelques mots de poésie arabe de Mahmoud Darwish qui compte tant
et
pour vous.
Et Abou Nawas aussi, qui sent un peu le souffre, mais il est bien aussi, Abou Nawas.
Et puis, il y a la rencontre aussi importante d'une certaine Anastasia Manstein-Sirinsky, née à Roubjine, dans l'Empire russe, et décédée en 2009, où ça ? À Bizerte.
Сонце, море, масса красочно одетых жителей, которые смотрели с удивлением.
Le soleil, la mer, la foule colorée qui regardait avec étonnement les bâtiments russes de guerre entrer dans le port de Bizerte. Cela s'est passé le 23 décembre 1920. Peut-être, pour ne pas perdre le fil, il vaut mieux commencer par notre départ de la Russie, pour toujours. L'évacuation s'est vite faite. Il n'y avait que deux jours pour partir. Ce jour s'est bien gravé dans ma mémoire d'enfant de 8 ans. Les gens chargés s'embarquaient rapidement. Tout le monde était très pressé. Et les premiers jours de l'occupation de la Crimée, il y a eu beaucoup de massacres parmi ceux qui sont restés.
Bertrand Delanoë, alors qu'y a-t-il entre Anastasia Sirinsky, Bizerte et vous ?
Des histoires d'amour.
Encore ?
Oui. Babou, Madame Sirinsky, c'est la maman de Bizerte. Elle a fait des cours de maths à trois générations de Bizertins. Elle est arrivée à 8 ans, elle y est morte à 97 ans. Et elle était adorée de tous les Bizertins, une femme russe, orthodoxe, très religieuse, tiens. Mais qui aimait les autres. Donc on ne pouvait pas ne pas l'aimer. Moi, j'ai eu le privilège d'abord de la connaître enfant parce que c'était une amie de ma mère, puis que ce soit mon prof de maths et que nous construisions tous les deux, elle et moi, une magnifique histoire d'affection quand j'étais un jeune adulte et qui a duré jusqu'à sa mort.
Mmh. Emblématique de cette diversité que vous revendiquez.
Mais vous savez, il y a une église orthodoxe à Bizerte et elle existe. Il y a parfois des offices quand le pape vient de Tunis. Bon, Madame Sirinsky l'a fait vivre. Madame Arafat est venue lui amener un chèque pour rénover l'église. Vous savez que quand j'étais président de l'association des maires francophones, nous avons rénové trois cimetières à Bizerte. Le cimetière musulman, le cimetière chrétien et le cimetière juif. Il n'y a plus de juifs à Bizerte, mais il y a des gens qui viennent voir. Bon. Et lorsque nous avons inauguré la restauration de ces trois cimetières, c'était à l'occasion d'une réunion des maires francophones à Tunis, mais où il y avait aussi l'organisation des villes arabes. Et j'avais proposé aux maires des villes arabes de venir avec nous à Bizerte. Et quand on est arrivé devant le cimetière juif, délicatement, j'aurais fait comprendre qu'ils n'étaient pas obligés de rentrer. Mais tout le monde est venu. Tout le monde est venu, organisation des villes arabes et maires francophones, dans les trois cimetières, chrétiens, musulmans et juifs de Bizerte. Et cette église orthodoxe, elle a sa place. Personne n'a jamais eu envie qu'elle disparaisse. La Tunisie que j'aime, la Méditerranée que j'aime, c'est la Tunisie qui aime.
Entre Bizerte et vous, entre Paris et vous, Bertrand Delanoë, la question se pose, ce sera la dernière dans Sol majeur. Votre toute dernière demeure, vous la souhaitez où ?
D'abord, c'est peut-être pas moi qui déciderai, encore que. Ne me demandez pas de choisir entre Paris et Bizerte, ne m'arrachez pas la moitié de moi-même. Donc Paris et Bizerte jusqu'au bout. Après, on verra bien s'il y a une douceur qui permet d'éteindre la lumière là où elle est la plus forte. On verra. Ce que je peux vous dire, tiens, puisque vous me demandez ça, mes filleules savent, puisque j'ai pas d'enfant, que lorsque je partirai, j'ai pas envie d'abord qu'on pleure, j'aurais qu'on rigole, j'aurais donné quelques suggestions, et je ne veux pas de traces, je ne veux pas de tombe, parce que ma tombe, ça sera la pensée ou l'affection de ceux qui voudront bien penser à moi dans les temps qui suivront. Et effectivement, l'endroit où ils disperseront mes cendres, c'est le Cap Blanc. C'est un endroit à l'extrême nord de l'Afrique qui regarde l'Europe. C'est beau et c'est une plage que j'aime profondément. C'est là que tout doit se terminer, mais sans tristesse, surtout sans tristesse.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Bertrand Delanoë, un récit intime intitulé La vie, passionnément, c'est à relire chez Robert Laffont. Et on va refermer cet En sol majeur, il le faut, parce que sinon on ne serait pas totalement chez vous, Bertrand Delanoë, avec la chanson de Barbara, Perlimpinpin. Ça, c'est votre banderole.
Vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse.
Je vous remercie.
Pour qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vie. Celui du Perlimpinpin dans le square des Batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Et pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine pour un En sol majeur au Cameroun à l'occasion du Salon du Livre de Yaoundé. À la semaine prochaine.